BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi sur BFM Business. Nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles sont là et répondent à notre appel. Owen Simonin, fondateur de sa chaîne YouTube Asher. Il est aussi à la tête de Meria. Bienvenue Owen, ravi de vous retrouver. Stanislas aussi avec nous, Stanislas Barthélémy pour KPMG, senior manager crypto pour le Web3 KPMG. Bienvenue Stanislas. On est ravis de vous retrouver aussi dans un instant. On va parcourir l'ensemble des actus de la semaine et il y en a eu pas mal. Mais d'abord, Vincent Gann pour mesurer ce que les cryptos ont dans le ventre, le potentiel technique des cryptos. Il est analyste technique indépendant. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume.
Bon Vincent, ça faisait deux semaines qu'on ne s'était pas parlé et le Bitcoin, eh bien, est à peu près sur les mêmes niveaux qu'il y a deux semaines, toujours en phase latérale autour des 90 000, 100 000 dollars le Bitcoin. De combien de temps cette phase latérale va-t-elle durer d'après vous?
Effectivement Guillaume, c'est la bonne question. C'est vrai qu'on se parle toutes les deux semaines, en tout cas depuis le début de l'année, à chaque fois on se retrouve plus ou moins au même prix. Cette séquence latérale, elle a commencé mi-décembre en fait assez vite finalement. Après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle, elle commence à épuiser les plus impatients. C'est ce que montrent les indicateurs de sentiment. Moi, vous connaissez, je ne m'inquiète absolument pas. Et je suis même confiant en réalité, parce que ce type de phase de pause comme ça, en haut d'une phase haussière verticale qui avait duré quelques semaines en novembre, c'est un schéma classique de pause avant que la tendance n'en démarre. Et puis là, si on prend encore un peu plus de recul, c'est la structure du cycle que nous vivons. C'est une structure technique hyper claire. Il y a des impulsions courtes, ça ne dure jamais depuis quelques semaines. Et puis des longs ranges. Alors, vous posez la question de la durée, ça peut durer plusieurs semaines. Plusieurs mois, je vais tout de suite vous rassurer, je ne pense pas que cette phase latérale va durer plusieurs mois, elle dure déjà depuis plusieurs semaines. Et d'après les outils que j'utilise de type répétition de cycle ou encore de saisonnalité, moi je suis assez convaincu qu'on en sortira. Alors, je ne vais pas vous vendre du rêve en vous disant qu'on va en sortir avant la fin du mois de février, mais avant le milieu du mois de mars ou la fin du mois de mars, je pense que oui, on en sortira. Maintenant, il manque un signal technique.
Justement, il manque un signal technique. On va arriver sur le mois de mars bientôt. Dernière semaine de février qui va s'ouvrir. Est-ce que d'un point de vue technique, vous pouvez, voilà, à très court terme, donc pour cette prochaine semaine qui arrive, nous fixer quelques premiers seuils à surveiller, Vincent?
Oui, alors écoutez, je vais vous dire des choses assez simples qui sont répétées sur l'antenne. C'est un training range, donc il faut tenir sa partie basse, c'est-à-dire 90 000 dollars, je vais parler en dollars. Maintenant, la meilleure façon de se mettre à l'abri, c'est de franchir une résistance. Et là aussi, je vais vous chercher quelque chose d'assez simple, mais le niveau des 100 000, 102 000 dollars, si le marché était capable, avec une séance, une seule séance, de le dépasser avec fracas, avec amplitude, je pense que là, on aurait vraiment le signal de la fin de cette phase latérale et on pourrait enfin aller chercher les 125, 140 000 dollars. Moi, c'est la cible que je vous propose depuis le début de l'année. Je l'avais établie pour mi-mars et je vais prendre le risque de vous confirmer qu'en termes de timing, je l'attends toujours. Maintenant, est-ce que d'abord, il faut qu'on chasse un peu sous le range à voir. La semaine prochaine, il y a les résultats d'NVIDIA, il y a l'inflation du SPCE.
Oui.
Peut-être, cher Guillaume, peut-être la semaine prochaine.
Alors, on y croit. C'est cette chanson, vous savez, le refrain, il y a toujours du soleil au-dessus des nuages. C'est ça que vous nous dites, en fait. Il y a toujours
Exactement.
Du soleil au-dessus des nuages. Ouais,
et même dans les cryptos. Le potentiel est encore énorme sur Bitcoin.
D'accord.
Énorme.
Merci Vincent de nous avoir accompagné, analyste technique indépendant, l'actualité est riche. On va parler, tiens, de Binance aux États-Unis, qui, finalement, Binance aux États-Unis pourrait se trouver épargné par la SEC. On va en parler. Binance US qui réouvre par ailleurs la possibilité de déposer des dollars à ses clients. On va détailler les choses. La Russie, est-ce qu'on peut imaginer, alors que les Américains rediscutent avec les Russes et parlent de vouloir normaliser leurs relations avec Moscou? C'est ainsi que Washington, quand même, est en train de s'exprimer, normaliser les choses avec Moscou. Est-ce qu'on peut imaginer un retour de la Russie, pourquoi pas un jour, dans le système SWIFT? Ou la Russie dira « Non, non, mais on n'en a plus besoin, il y a les blockchains. » Ah, on va poser cette question aussi. Et puis Fort Knox, les réserves d'or de Fort Knox seront bientôt auditées. Donald Trump l'a encore confirmé il y a un peu moins de deux jours. Cet audit des réserves d'or américaines pourrait-il impacter l'ampleur de la future réserve stratégique en crypto? Ah, on posera aussi cette question. Sans oublier la loi narcotrafic ici en France qui inquiète la communauté sur le respect de la vie privée. C'est votre machine à concentrer l'essentiel. Bienvenue à tous, les pros des cryptos tous les vendredis.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là. Owen Simonin, donc. Bonjour Owen.
Bonjour.
Et Stanislas Barthélémy. Bonjour Stanislas.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue. Oui, j'ai ripé sur le mi parce que je suis en train d'essayer d'apprendre la guitare et le mi, c'est plus difficile. On est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. Les États-Unis, il faut qu'on démarre. Oui, j'essaie de me rattraper. Il faut qu'on trouve une excuse. Il faut qu'on démarre par les États-Unis. Binance, et c'est vous qui nous alertez là-dessus aujourd'hui. Vous avez contacté ce matin en disant qu'il faut quand même qu'on en parle, c'est important peut-être pour l'avenir effectivement de ces cryptos, de ces plateformes aux États-Unis. Binance pourrait finalement se retrouver épargné par la SEC.
C'est plutôt Coinbase.
J'ai dit Binance. Vous avez raison, c'est Coinbase.
En fait, les deux news sont à remettre en perspective. Je elles vont dans
mal,
le même
là.
Sens.
Oui, oui.
C'est le...
Non, je commence et puis, mal. Comme il y a Binance qui, aux US, vient de relancer les dépôts USD, on a l'impression qu'ils sont épargnés aux US, mais c'est plutôt qu'ils ont purgé leur peine, je pense.
Exactement. Deux nouveautés qui sont assez chaudes, puisque l'une date d'hier et l'autre d'aujourd'hui. C'est un, la SEC qui pourrait, sous réserve de validation, abandonner ses poursuites vis-à-vis de Coinbase, avec ce jeu de « vous avez enfreint les lois, Coinbase dit lesquelles ?» impossibilité de répondre, nouvelle administration Trump, donc derrière la SEC abandonne et va plutôt pousser le secteur. Et la deuxième chose, c'est Binance qui, après l'amende record, mais derrière envie d'être compliant, de se remettre en selle, ils repermettent le dépôt de dollars sur leur plateforme. Et donc ces deux signaux montrent que les États-Unis vont vraiment avancer. Il y avait, on va dire, beaucoup d'idées, de fantasmes sur est-ce que ça va se passer. Là, manifestement, la SEC avance.
Oui, et c'est un signal fort. Enfin, pour vous, c'est quelque chose d'assez majeur, là. C'est-à-dire qu'il y a les déclarations d'amour, puis il y a les preuves d'amour. Là, on a une vraie preuve d'amour, sans doute, à venir vis-à-vis de la communauté crypto.
Totalement. Et le problème, c'est que si, par miroir inversé, on regarde ce qui se passe en Europe ou même en France avec le projet de loi qu'on évoquera tout à l'heure sur le narcotrafic, on freine un peu là où, au moment, en face, ils n'ont pas peur et moins de pudeur de gazelle à développer l'industrie et les emplois.
Il y a un truc aussi, on a vu les États-Unis changer totalement leur fusil d'épaule, mais quand on voit le président qui lance un meme coin, quand on voit les décisions qui peuvent être prises, ça rassurait pas forcément de ce qui pouvait se passer aux États-Unis non plus. Et pour le coup, le côté régulateur, l'avancement sur certains procès qui étaient en cours, notamment avec Coinbase, qui visiblement, la SEC annule tout simplement ses poursuites de Coinbase, on voit quand même que la machine de régulation et de structuration financière des États-Unis, elle, suit un chemin qui est plutôt réfléchi et semble aller dans le bon sens pour les crypto-monnaies, même si on sait que l'administration est capable de faire quelques folies et Trump et Mélania l'ont prouvé.
Effectivement. Mélania, d'accord.
Également, bah, c'est
oui, oui,
ça.
Non, mais vous l'appelez Mélania.
Elle a carrément lancé Mélania son Trump. Token oui, qui oui. S'appelait le Mélania Coin.
Ah, effectivement. Bon, alors on va reparler de tout ça et aussi la loi narcotrafic dans la suite des pros des cryptos pour voir comment ici en France, l'administration, surtout les parlementaires, les politiques, comptent traiter l'écosystème. Juste une autre question, on va rester à cette frontière entre l'écosystème et les politiques avec ce meme coin qui peut-être va refaire basculer le destin d'une nation tout entière. C'est l'affaire de la semaine quand même, Javier Milei, qui a donné de la visibilité à un shitcoin, une arnaque, on peut clairement le dire. Il a, il y a quelques jours, tweeté voilà, pour mettre en avant, pourquoi pas, un meme coin. Sauf que ça s'est révélé être une arnaque, il a très vite retiré son tweet, mais ça fait évidemment scandale en Argentine. Javier Milei, le président, est-il soupçonnable de corruption, Stanislas?
C'est ce que les enquêtes vont montrer. C'est sûr qu'il y a un énorme rebond politique suite à cette affaire. Il y a des Argentins qui ont suivi la parole du président en disant bah tiens, il lance un projet de crypto-monnaie, même s'il n'y a aucun fondamental. Ils se sont mis dans cette vague, ils en ont acheté, ils ont vu que c'était une arnaque, le président a fait faux bond. Ça devient une affaire politique, puisqu'on fait perdre de l'argent aux Argentins, on perd de la crédibilité sur la scène nationale et aussi internationale. S'ensuit des variations sur les bourses, sur la bourse locale et sur la crédibilité, la parole du président. Donc oui, ça parle même de destitution, on va voir comment ça va se passer. C'est sûr que ça n'aide pas avec un président qui a un caractère un peu bouffon déjà, sur son afuera, les différents attributs de sa présidence.
Il a offert une tronçonneuse à Elon Musk hier.
Je faisais référence à ça.
Par exemple.
Tronçonneuse un peu dorée. C'est sûr que participer à des arnaques de bas niveau comme ça n'aide pas à sa crédibilité, à sa parole.
Qu'est-ce qu'il risque ?
Certains parlent du coup de destitution, mais on n'en est pas là. Parce que le problème, c'est que émettre un meme coin, ce qu'a fait également Donald Trump, hein, ce n'est pas illégal. C'est vraiment le comportement qu'il y a derrière, le fait d'utiliser sa position politique pour un possible enrichissement personnel. Et ça, ça va être mis en cause. Mais c'est également des grosses questions qui vont être des questions d'ordre moral. Et donc, la réalité, c'est que d'un point de vue de la destitution, on en est très loin. Ça suffit pour mettre une claque de moins 6 ou moins 7% sur la bourse, mine de rien. Donc, comme quoi, on peut pas faire n'importe quoi sans conséquence sur les marchés financiers. Mais d'un autre côté, c'est surtout de la crédibilité et également une enquête qui va être lancée. Mais de là à imaginer la destitution pour un comportement du genre, je pense que c'est tiré par les cheveux. Par contre, ça va envoyer un message fort comme quoi il faut arrêter la vague des présidents qui lancent leur meme coin. Mmh. Et surtout, la différence entre celui de Trump et celui, du coup, qui a été mis en avant par le président argentin, c'est simplement qu'il y en a un qui s'est totalement effondré, alors que l'autre a maintenu une certaine valeur. Mais en réalité, les deux auraient pu aller dans la même direction et ont d'ailleurs été lancés et soutenus par les mêmes équipes. Donc, il y a des vrais messages de fond qui sont envoyés et là, c'est une sonnette d'alarme qui vient d'être lancée et j'espère qu'on va arrêter d'aller dans cette tendance.
Sisi, dans cette histoire, joue les bons samaritains. L'ancien boss de Binance, il a fait un don pour soutenir les victimes de cette arnaque promue, entre guillemets, par Javier Milei.
Tout à fait. Il a fait un don, 150 BNB, donc quelque chose de l'ordre de 75 000 euros pour soutenir partiellement certaines victimes. c'est une bonne image. Ça renvoie une bonne image du personnage, un personnage qui a quand même déjà une bonne image dans l'écosystème. Bon, il sort quand même de 4 mois de prison pour les différents faits qui lui ont été reprochés sur la gestion de Binance à l'époque, mais ça lui ressemble d'aller dans cette direction et d'envoyer des messages de soutien quand il estime que ça a dépassé certaines limites.
Ouais. Les pertes cumulées sur ce même coin, c'est quand même 230 millions de dollars, donc 100 000 dollars avec un peu plus de BNB qu'ont envoyé la communauté, quand même, en termes d'ordre de grandeur, on en est loin.
Mais... Tout à fait. Mais en tout cas, c'est une initiative personnelle qu'il prend. Et donc, ouais, c'est un soutien, c'est, d'un point de vue marketing, pour moi, c'est clairement une opération d'image.
Et il est cohérent avec lui-même. La question que sous toute cette histoire pose, c'est quand même de savoir où commence la manipulation. Donald Trump, par exemple, cette semaine, a partagé un article, pas sur Bitcoin, l'article, mais sur une autre crypto, le XRP Ripple. Le cours est monté, du coup. Où commence la manipulation?
C'est une très bonne question. C'est la dernière fois, quand on parle de réserve stratégique, il y avait ce projet d'ajouter des tokens, des jetons qui venaient des US. Et avec toutes ces positions de pouvoir que Donald Trump veut créer dans son administration de personnes qui sont favorables aux cryptos, ça crée un jeu de lobbying qui, et on en retrouve une nouvelle émanation avec, sur son réseau trop social, Donald Trump qui partage un article disant que le patron de Ripple, Brad Garlinghouse, veut investir et créer des emplois aux US. Donc mécaniquement, quand un président fait un retweet, c'est assez puissant et s'ensuit encore un peu plus d'imagination renforcée autour des US. Donc c'est du lobbying, c'est de la politique, pas forcément celle qu'on aime, objectivement, parce que derrière, des mouvements sur les marchés, effectivement.
Puis on en parlait ici même sur ce plateau il y a un mois ou un mois et demi. Ripple essaye de potentiellement mettre en avant son token plutôt qu'un autre pour un potentiel ETF. Donc on sait également qu'il y a un investissement en temps et en ressources de la part de Ripple pour être un peu plus présent aux États-Unis. Et on voit le président qui commence à en parler. On voit la partie émergée de l'iceberg, quoi, finalement.
Oui, alors justement, les XRP qui cherchent à faire valider son ETF, ça a été le cas, je crois, au Brésil. J'ai vu passer une info.
Pour être totalement honnête, je ne serais pas capable de répondre.
Alors, les mêmes coins, en tout cas, les manipulations courtes, les arnaques aux cryptos, c'est aussi l'objet de notre question crypto qui claque. C'est parti. La question embarrassante qu'on pose chaque semaine dans l'ensemble de l'écosystème. Owen et Stanislas, êtes-vous prêts?
Prêt.
Voici la question gênante. Est-ce que l'intelligence artificielle, selon vous, pourrait un jour permettre de briser ces manipulations de cours dans l'œuf? Allez, à 80%. Est-ce que oui, l'IA va apporter la solution? Oui ou non? Question simple. Vous êtes déjà nombreux à participer depuis tout à l'heure sur notre fil X BFM Crypto. Laissez-nous vos arguments en commentaire, ils comptent aussi. Qui se lance en premier? Stanislas, est-ce que l'IA va résoudre le problème des arnaques aux crypto?
Non.
Owen?
Non.
Ah, c'était dur.
Ah, moi j'ai du mal.
Non.
Non, mais ce qui est compliqué, c'est que le potentiel de l'IA, on est à peine en train de mettre le doigt dessus. Donc, prendre une position sur ce que l'IA ne sera pas capable de faire dans le futur, c'est insulter l'avenir et j'aime pas ça. Malgré tout, à l'instant T, c'est plus une tendance qu'autre chose. Et les petits projets qu'on voit se lancer sur l'IA, pour la plupart, n'essayent même pas d'apporter de la valeur. C'est juste surfer sur une tendance. Donc, là, maintenant, tout de suite, pour moi, ça crée plus de problèmes qu'autre chose. Maintenant, sur le long terme, je pense que ça fournira des outils qui lutteront, en tout cas, mais qui ne permettront pas d'éradiquer les arnaques, ça, c'est certain.
Et le marché des arnaques s'adaptera toujours et utilisera lui-même l'IA. Stanislas?
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on peut être en défense en utilisant ce type d'outils. On oublie quand même que la première faille, elle est humaine. C'est de l'ingénierie sociale sur des petits oublis, des petites erreurs, un manque d'attention. Ça peut être aussi utilisé en attaque, et ça, je le redoute, parce que quand on voit, quelque part, la fragilité de certaines personnes, si on industrialise avec l'IA, j'ai pas envie de donner d'idée, certaines arnaques, je pense que ça peut faire du mal. Donc je pense que ce côté attaque et défense pourrait s'annuler.
On va regarder vos réponses à vous tous. Est-ce que l'IA va permettre de résoudre, allez, 80% des arnaques aux cryptos? Vous pensez oui à 62%, donc c'est une vraie majorité quand même, à 62%, vous y croyez. Ouais. Voilà, mais peut-être un peu d'optimisme. Bon, et vos arguments comptent, laissez-les nous à chaque fois, bien sûr, en commentaire. Mais c'est vrai qu'on voit que même si l'écosystème crypto s'est bien professionnalisé, il reste un peu glissant, il reste quelques arnaques, des pratiques mal encadrées. Alors je vais m'adresser à vous, les professionnels des cryptos. Faut retourner à l'école, les gars. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Europe. L'Union européenne pourrait vouloir imposer des diplômes comme à l'école pour travailler dans les cryptos. C'est bien pour éviter les cow-boys formés à l'économie et au droit, ou vous vous dites que c'est de l'infantilisation des professionnels? Owen?
Il y a un message de fond qui est plutôt sain. Pour gérer une institution qui a de la responsabilité financière, il faut avoir un certain niveau de connaissance. Ça paraît évident. Ça paraît évidemment sain. Mais l'Europe a déjà brillé par sa régulation. L'Europe a déjà brillé par ses règles strictes. L'Europe a déjà brillé par sa copie du système financier pour réguler des acteurs crypto qui sont totalement différents et donc brider l'innovation. Et on remet des contraintes supplémentaires qui pourront être tenues par les plus grosses structures et qui seront sans aucun doute létales par les plus petites. Ça, c'est une réalité. Donc, d'un côté, avoir un minimum de formation, avoir un minimum de connaissances, et évidemment, on ne peut même pas être contre cette idée, demander des diplômes qui ne représentent même pas cette nouvelle industrie à certaines personnes qui sont probablement déjà en poste et qui exercent depuis 3, 5, 7 ans, et je ne parle pas de nous, mais je le pense un peu au fond quand même. C'est une injustice et encore une fois, ce sont les plus petits acteurs qui en souffriront et ça permettra de centraliser encore plus quelques gros acteurs. Et d'ailleurs, les acteurs américains sont en train d'arriver et prendre le marché de l'Europe parce qu'ils ont des ressources pour le faire et les Européens, eux, attendent en espérant se faire une petite place.
Vous vous imaginez pas devoir repasser un diplôme en crypto auprès de KPMG? C'est peut-être KPMG et Stanislas qui
vous... Mais ce sera absolument pas des diplômes en crypto. Ce sera des diplômes qui ne correspondent absolument pas à la réalité du métier que nous exerçons tous les jours. Et on ira les faire pour cocher la case numéro 35-7B qui nous permettra de déposer le dossier.
C'est peut-être pour vous, KPMG, une opportunité de business, ça, délivrer des diplômes.
Ça l'est déjà. Envoyer une proposition commerciale dans l'après-midi. Une réserve de mon risk management, sinon je me fais attaquer.
Tiens, la semaine dernière, on disait que MicroStrategy, qui s'appelle maintenant Strategy, était assez isolé hein, parce que personne ne les suit dans leur stratégie de constituer des réserves en crypto. Et c'est vrai que MicroStrategy, de plus en plus leader, c'est le premier acteur privé des réserves en crypto. Ben, en fait, c'est moi qui disais qu'ils étaient très très isolés et peut-être seuls. Non, c'est pas vrai. En fait, certains les suivent et c'est le cas, c'est une info de la semaine aussi, c'est le cas de GameStop. D'après certaines sources, GameStop Owen pourrait suivre l'exemple de Strategy à son tour constituer des réserves.
Il y a un film extraordinaire sur GameStop qui s'appelle Dumb Money, qui raconte leur histoire quand certains fonds venaient shorter massivement le titre GameStop et finalement, grâce à la communauté, notamment sur Reddit et Wall Street Bet, ont réussi à relever le titre. Donc GameStop, c'est vrai que d'un point de vue économiquement, ils ont certaines limites, notamment par leur business model qui se doit de se numériser, mais ils ont un soutien communautaire complètement fou. Et ils l'ont bien compris, parce qu'en se positionnant sur Bitcoin, en animant encore une fois et en rajoutant justement de l'énergie et du fuel à cet engouement communautaire pour les crypto-monnaies, ils ont peut-être trouvé un soutien financier et une différenciation sur le marché, qui pourrait encore une fois renforcer le titre. C'est très malin, encore une fois, c'est pas définitif, c'est une réflexion qu'ils ont en cours, mais ce serait bel et bien comprendre leurs nouveaux atouts sur ce marché et une volonté d'aller dans le numérique et indirectement, de générer des revenus financiers et de devenir consolider le titre. C'est quelque chose de très malin. Il n'y a pas que MicroStrategy, mais il y a de plus en plus d'entreprises. Ça s'institutionnalise, il y a de plus en plus de régulations. On aura de plus en plus d'entreprises, d'États et pourquoi pas de gouvernements qui feront de Bitcoin une réserve stratégique. Et GameStop est en train de prendre une réflexion qui est plutôt saine et malin.
Et on parlera de la réserve stratégique américaine dans un instant. Oui, ça diffuse, ça infuse manifestement, Stanislas.
Pas qu'aux États-Unis, parce que c'est après, c'est un sujet d'ampleur. Il y a d'autres entreprises qui le font. J'en cite une en France de Blockchain Group avec Alexandre Lézé, qui a une vraie vision et qui a envie de le déployer. Il y a normalement une levée de fonds d'ici dans quelques jours, à la fin du mois, avec 350 millions de prévus, si je ne dis pas de bêtises, pour acheter du Bitcoin. Et il y a aussi Metaplanet qui a fait des annonces hier, qui est plutôt en Asie. Donc ça fait des émules. Après, c'est pas dans les mêmes proportions que Michael Saylor, où ça se compte maintenant en dizaines de milliards. Mais quand même, ça, c'est plutôt intéressant, je trouve.
Les pros des cryptos chaque vendredi, votre rendez-vous crypto avant le week-end ou pendant le week-end sur notre chaîne YouTube BFM Crypto. On y vient, cette fameuse loi narcotrafic, l'avenir de la liberté, bon, telle que la communauté crypto le perçoit. En tout cas, le gouvernement veut renforcer la lutte contre le blanchiment. On comprend. Et cette lutte, selon lui, passe manifestement par la case crypto. Le projet de loi narcotrafic fait son petit bonhomme de chemin là au Parlement. Pourquoi est-ce que ce projet de loi inquiète autant la communauté, Stanislas?
On est obligé de prendre une précaution oratoire quand on traite de ce sujet. Évidemment que se combattre le narcotrafic, c'est une évidence. Par contre, c'est plutôt la manière dont on le fait. Le diable étant dans les détails. Donc effectivement, il y a une proposition de loi qui a été déposée et votée à l'unanimité au Sénat. Elle arrive bientôt à l'Assemblée. Et dans cette proposition de loi qui crée plein de choses, il y a quand même 2-3 amendements qui concernent la crypto. Deux dispositions à retenir. Un, on interdit l'usage des mixeurs en créant une suspicion de blanchiment à chaque utilisation, ce qui est quand même assez puissant, parce que là, on renverse la charge de la preuve. Tout utilisateur devient, entre guillemets, suspicieux. En plus, avec un raisonnement qui est un peu fallacieux, dans la mesure où ça devient le mixeur, la technologie, le problème, c'est plutôt son usage. Il y a des gens mal intentionnés qui peuvent faire usage. Il faut plutôt concentrer ses efforts sur ces flux illicites plutôt que de criminaliser l'usage dans son entièreté des mixeurs.
C'est comme si on vous disait dans votre cuisine, ah, tu utilises un couteau tous les jours, tu as sans doute de mauvaises intentions vis-à-vis de quelqu'un. Ben oui, mais non, c'est pour faire la cuisine, quoi. Bon. Oui.
Totalement. Allez-y. Et c'est la même chose sur une deuxième disposition, sur là, les tokens, les jetons dits d'anonymat, ou pareil, là, on les interdit purement et simplement, du moins leur usage, puisque c'est bien d'avoir une déclaration d'intention de les interdire. Ça veut pas dire que les personnes derrière ne les utiliseront plus. Au contraire, ça crée une pression pour aller vers des environnements non régulés. Donc, quelque part, on crée une pression et on emmène les gens vers des destinations dont on n'avait pas nécessairement envie de faire. Et pour moi, ça pose quand même deux sujets. C'est un sujet politique et philosophique. C'est une question de proportionnalité et de liberté publique. C'est-à-dire que interdire les mixeurs et créer une suspicion de blanchiment, donc renverser la charge de la preuve, alors que quand on regarde les études autour de l'usage des mixeurs, Chainalysis, TRM encore récemment, c'est une minorité des flux illicites qui sont dans ces mixeurs. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser, on peut utiliser ces mixeurs à des fins, à des bonnes fins.
Oui.
J'en cite deux, une personne qui veut payer un avocat en crypto, il faut la confidentialité dans le paiement, on utilise un mixeur. Ou deux, quand on veut financer des causes qui sont plutôt nobles, surtout en ce moment, je pense au don de Vitalik Buterin à l'époque, qu'il avait donné à l'Ukraine, il avait révélé utiliser un mixeur pour montrer qu'il y avait des bons usages. Et donc c'est un peu dommage pour des volumes illicites qui sont faibles en proportion par rapport au total, surtout qu'aujourd'hui le blanchiment se fait beaucoup par l'euro et le dollar, d'avoir quelque part la main lourde sur les cryptos, alors qu'il y a plein d'arguments politiques qui vont dans le sens de l'usage de ces technologies. Et donc après se posent des questions de constitutionnalité, de droit aussi, de compatibilité par rapport au droit européen, outre le caractère opérationnel. C'est pas possible à mettre en œuvre.
Tout simplement. Owen, je vous vois dépité par cette histoire.
C'est même plus cohérent. Quand on regarde statistiquement, par exemple, les flux de blanchiment sur les crypto-monnaies, on sait qu'il y a 10 ou 15 fois moins que de l'euro. Et on va rajouter encore des obligations très lourdes sur un truc très régulé, sur un domaine où il y a 15 fois moins de blanchiment. Plutôt que de mettre des ressources ailleurs, on va encore brider de l'innovation, alors que intelligemment, si on veut réellement lutter contre ce genre de choses, et ce sont des causes nobles, c'est pas ici qu'il faut mettre des ressources supplémentaires. C'est tout.
Ça devient un sujet de compétitivité aussi, ce que tu mentionnais tout à l'heure pour les diplômes.
Tout à fait.
Pour des petits montants, là ça devient pour des gros
et
montants.
Et politique, parce que c'est facile à la télé d'aller annoncer qu'on va encore une fois saisir les crypto-monnaies et se battre contre le blanchiment, parce que c'est ce que les gens qui ne connaissent pas peuvent entendre. Et le discours changera, mais ça prendra du temps et ce sera peut-être trop tard.
On va suivre le chemin au Parlement, en tout cas de ce projet de loi. Le cours du Bitcoin, lui, il dépendra de l'adoption par les entreprises, la création aussi des fameuses réserves stratégiques. On y vient. Les États-Unis gardent leur idée de créer une réserve stratégique en crypto et peut-être que l'ampleur, les volumes de cette réserve stratégique en crypto dépendront des volumes d'or que les États-Unis détiennent. Il se trouve que le gouvernement de Donald Trump compte ouvrir Fort Knox. Fort Knox va être mis à ciel ouvert. Voilà, vous l'entendez, l'or qui coule. Le gouvernement américain espère qu'il y a beaucoup d'or dans Fort Knox. Les réserves vont être ouvertes. La dernière fois qu'un audit de Fort Knox a eu lieu en présence d'un président, c'était en 1974, figurez-vous. Ça remonte quand même. Ouais, ça va être un grand moment, ça.
Audit complet 1950. Donc finalement, c'est l'or de Schrödinger pour le moment. Et en 1974, il y a eu un audit, vous avez raison, mais de 6% des stocks. Et ensuite, quand on fait un audit, ça pose des questions de sécurité. C'est long, ça coûte très cher, et on peut faire des audits en prenant que certaines pièces, mais sans avoir de certitude sur l'entièreté du stock. Ou alors un audit qui peut être destructif, en venant tout simplement mettre un forêt pour prendre des informations sur chaque lingot, et là, ça prend un temps fou. Parce qu'il faut le faire en interne ou en respectant des critères de sécurité, car si on sort tout l'or pour l'auditer et qu'on le remet, on peut avoir des doutes sur l'or qu'on a réellement remis. Le gros souci qu'il y a là-dedans, c'est que ça va être un chantier titanesque. Il pourrait y avoir un impact considérable sur les marchés financiers et sur le marché de l'or et sur la géopolitique si on se rend compte que les États-Unis n'ont pas les réserves.
S'il y a des surprises, on verra.
8133 tonnes, 4500 à Fort Knox. Et surtout, c'est quand même un or qui est très symbolique puisque c'était l'or sur lequel était baqué le dollar avant les accords de Bretton Woods en 1971. Donc, c'est vraiment on va toucher à l'image des États-Unis. Et quoi qu'il arrive, que ce soit un audit successful mais long, laborieux et coûteux, ou que ce soit un audit qui donne de mauvaises nouvelles, ça pourrait faire considérer le Bitcoin comme un or numérique qu'on peut auditer en toute transparence à n'importe quel moment, à moindre coût. Et ça pourrait le faire considérer, même si, évidemment, entre la valeur que pourrait être le Bitcoin et l'or, il n'y a pas le même track record, il n'y a pas la même crédibilité. Et donc, ça reste à prouver.
On verra ce que Fort Knox a dans le ventre. On va ouvrir Fort Knox pour voir combien d'or il y a à l'intérieur. Elon Musk a déjà expliqué qu'il y aurait des live streams sur les réseaux sociaux. Bon, on est en 2025, les amis.
On est en 2025.
Ouais, effectivement. Est-ce que vous pensez que des réserves d'or qu'on verra dans Fort Knox dépendra de l'ampleur de la future réserve stratégique en crypto? Est-ce que ça peut avoir un impact, une influence?
Probablement, mais assez faible. Ce qui est sûr, c'est que l'auditabilité de Bitcoin est une caractéristique essentielle qui pourrait faire dire à des personnes qui sont ses défenseurs que ce sera aisé à suivre. Aujourd'hui, on peut déjà suivre les détentions, par exemple, du Bhoutan en temps réel. Ils minent du Bitcoin avec leur hydroélectrique. On voit qu'ils en ont quasiment pour 1 milliard, ce qui représente une grande partie du PIB. Dès qu'il y a un mouvement, on le voit. N'importe quel citoyen pourrait auditer la réserve de son propre pays. Et c'est ça l'idée politique qui est assez forte avec Bitcoin.
En attendant la constitution de cette réserve fédérale, les différents États américains sont en train de se positionner. L'État de l'Utah pourrait bien devenir le premier des États américains à créer sa propre réserve. Ils se sont encore exprimés là ces derniers jours, l'Utah. Owen ?
Tout à fait. Si les États-Unis ne sont pas capables de se positionner rapidement, il y a certains États qui demandent à le faire. Et puis, si on parle pas de l'Utah, on parle également de la République tchèque, dont oui. le gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur de la réserve, si je dis pas de bêtises.
La Banque centrale.
La Banque centrale, a proposé également cette idée. Ça commence à arriver. Comme on le disait, c'est pas simplement la question des États-Unis, c'est pas simplement la question de GameStop, c'est une question de mouvement, c'est une question de considération. Mmh. Les gens se posent des questions sur Bitcoin, les gens se renseignent. Quand les gens se renseignent, ils en tirent des conclusions personnelles, et de ces conclusions personnelles en découlent des convictions. Et ça peut créer un mouvement qui va dans ce sens.
Et puis Bitcoin montrera aussi si le grand public s'y met davantage encore. Google, à défaut d'avoir des cryptos en réserve, pour le coup, Google pourrait quand même faire un pas qui contribuerait à démocratiser le Bitcoin. C'est d'ailleurs l'une des news de la semaine. Quel rôle pourrait jouer Google ?
Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça annonce un portefeuille. Hein. Ils annoncent simplifier un portefeuille de crypto. C'est vrai que les portefeuilles Bitcoin ne sont pas les plus simples à utiliser, notamment pour les débutants. Pour moi, ils parlent de démocratisation. Ils ont déjà mis les feux verts hein, pour faire de la publicité, pour le référencement, pour beaucoup de sujets sur les crypto-monnaies. Pour moi, ce que Google vient de faire, c'est tout simplement dire, avant, on était partenaire, on fournissait des infrastructures, des serveurs, on participait avec des projets crypto. Ils tournent même certains validateurs sur certaines blockchains. Là, pour moi, ils viennent de dire, c'est de l'adoption, les portefeuilles sont trop complexes, on va essayer d'aider dans cette direction-là. Pour moi, ça annonce que le géant Google annonce et va sortir un wallet simple.
D'autant qu'ils ont déjà une application qui s'appelle Wallet dans la suite Google Android, mais c'est pour ses cartes bleues. Mais derrière, on peut imaginer un wallet pour les cryptos, dans la mesure où ça devient un outil du quotidien pour faire du paiement, pour transférer de l'argent, etc.
Il y a les outils du quotidien, il y a la grande géopolitique. Les États-Unis et la Russie ont repris un dialogue, ont réouvert leur dialogue et les États-Unis veulent normaliser, c'est le terme qu'ils emploient, leur relation avec Moscou. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à réintégrer un jour la Russie dans le système de paiement SWIFT ? C'est une question qui, alors elle est trop tôt, c'est trop prématuré pour se poser aujourd'hui cette question, mais à un moment elle viendra peut-être si les États-Unis veulent vraiment normaliser les choses. Et là-dessus, justement, sur le système SWIFT, il se trouve qu'un haut dirigeant russe s'est exprimé en comparant SWIFT au blockchain. Est-ce que SWIFT, c'est l'avenir du système de paiement ou pas, de moins en moins, grâce au blockchain, Stanislas ?
Ça dépend de la capacité d'innovation du système financier. Je mets de côté pour l'instant la question de la Russie que je traiterai après. Aujourd'hui, dans le système financier, on transfère des messages, des instructions entre différentes zones qui ne sont pas interopérables au sens des blockchains. C'est-à-dire qu'ils doivent communiquer entre elles. Et donc, il y a un standard de messagerie qu'on appelle SWIFT, qui a eu plein d'innovations derrière. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal de tentatives du système financier, par exemple de la BIS, qui est la Banque Centrale des Banques Centrales, de créer des systèmes entre les différentes zones économiques, les différentes banques centrales, pour bénéficier des caractéristiques des technologies blockchain, composabilité, interopérabilité et même atomicité. C'est-à-dire quand on envoie une transaction, il n'y a pas de risque de contrepartie, elle se fait automatiquement. Ce qui est sûr, c'est qu'avec cette vision-là, SWIFT est moins nécessaire. Ils essayent d'innover pour continuer à se remettre comme un intermédiaire. La question maintenant, c'est est-ce qu'il y a une forte inertie ou pas du système financier pour aller vers ces solutions blockchain ? Je pense que ça va prendre pas mal de temps, donc je ne me fais pas trop de problèmes pour SWIFT à court moyen terme. Maintenant, la question quelque part de la Russie et de sa réintégration dans le système traditionnel, ça c'est une question politique, je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Pareil, mon risk management me regarderait et hurlerait. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut aller plutôt sur le côté technologie blockchain, mais ce n'est pas encore totalement mature.
Ouais, on suivra tout ça, bien évidemment. On aime aussi suivre les dossiers, d'ailleurs, ici, dans les pros des cryptos. Alors, attendez juste un instant. Chris, notre réalisateur, veut intervenir en direct. Chris, vas-y, c'est à toi.
Oui, Guillaume, justement, ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas parlé de FTX. Alors, j'ai vu que le remboursement des clients de FTX avait démarré cette semaine. D'ailleurs, j'attends encore, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Est-ce que, d'une façon générale, les clients de FTX peuvent enfin respirer ?
Ah oui.
Oui et non. Oui, ils commencent à percevoir des remboursements, mais on parle de 120% de la valeur de leur solde au moment de la faillite. Donc pour Ethereum, c'est à peu près la même valeur qu'aujourd'hui, tristement. Pour Bitcoin, on parle de 20 000 dollars, donc beaucoup moins que la valeur du Bitcoin aujourd'hui. Par contre, si vous aviez des stablecoins, par exemple, vous récupérez à peu près le solde que vous avez. Donc, c'est une poche de liquidité qui se libère. La vraie question, c'est est-ce que ce sera une pression acheteuse ou vendeuse sur le marché des cryptos ? Il y a un an et demi, je vous aurais dit que c'était une pression vendeuse parce que les gens allaient essayer de sauver leurs petits et récupérer tout ce qu'ils peuvent en cash. Aujourd'hui, vu les conditions de marché, on peut se demander s'ils vont pas réinvestir sur certains altcoins ou se reprendre des positions.
Ouais. Sachant que, voilà, on va suivre les choses, il y aura une nouvelle phase de remboursement pour les plus gros portefeuilles à partir du 30 mai également. On avait prévu de parler aussi du sponsoring, le retour des grands sponsors crypto dans les grands événements, par exemple Coinbase qui va devenir sponsor officiel d'Aston Martin en Formule 1, et puis de son côté Tether qui entre dans la Juventus de Turin. Tether qui rentre au capital du club de foot de la Juventus. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, c'est peut-être des signes que quand même l'écosystème crypto désormais a redoré son blason après quelques années difficiles. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Stanis Stanislas Barthélémy, KPMG, et il délivre des diplômes en plus. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria. Votre chaîne YouTube Asher, combien de followers sur Asher?
On va passer les 750, ça y est, on y est.
Bien joué.
750 000.
Les pros des cryptos, merci messieurs. Bon week-end, bravo Owen. À suivre tout au long du week-end sur notre chaîne YouTube. Bon week-end à tous.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.